Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Be Our Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisien et orléanais, sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Un nouvel épisode de La Colle pour enfin comprendre ce qu'est le marketing responsable. Pour cela, je vous invite à découvrir notre colleur du jour, David Garbous. Il nous explique, au travers de son parcours, comment de Danone à Fleury-Michon, en passant par Le Sieur, il a pu faire naître l'idée que le marketing était une des pierres angulaires de la construction d'un monde meilleur. Un marketing force de changement qui pousse les entreprises à être socialement responsables. Et puis, David, tout comme moi, est un fan de Simon Sinek. Et ça, ça en fait définitivement quelqu'un de bien. Always start with why. C'est son credo que je partage à 3000%. Aujourd'hui, David est entrepreneur et accompagne plus de 10 entreprises sur la voie du changement. Il était une fois un homme qui changeait le monde grâce au marketing. Il était une fois David Garbous. Bonjour à tous, nous voilà repartis pour un nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui avec David Garbous. Hello David.
Bonjour Pierre.
Alors, David, on va parler aujourd'hui de marketing et de marketing responsable. C'est un de tes chevaux de bataille, on va dire ça comme ça, si on peut le dire comme ça.
Absolument.
Et moi, j'ai envie de comprendre exactement ce que c'est. Est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux pour une marque, pour s'acheter une virginité, on va dire, ou faire du greenwashing, j'en sais rien. J'ai envie de mieux comprendre ça. Et il se trouve que tout au long de ta carrière, ça a été là aussi un élément important, des éléments fondateurs même. Alors, David, est-ce que peut-être déjà en amont, en quelques mots, tu veux te présenter rapidement?
Oui, avec plaisir. Je suis ravi d'être avec toi. Et écoute, moi j'ai 20 ans d'expérience aujourd'hui dans l'univers de la grande consommation. J'ai commencé chez Danone. J'ai passé un peu plus de 10 ans ensuite chez Le Sieur et je viens de terminer un cycle de 7 ans chez Fleury-Michon où j'étais à la direction du marketing stratégique. Et avant ça, j'avais fait un parcours assez classique avec une prépa et puis une école de commerce. J'ai été à l'EM Normandie.
D'accord.
Et jusque à la dernière année de l'école, je dois dire que je ne savais pas exactement quelle discipline ou comment m'orienter. Et j'ai choisi le marketing en dernière année, grâce à une équipe qui est venue à l'école pour présenter un cas qui était le cas Cœur de Lyon. Cœur de
Bon
Lion, lancement
courage.
d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle référence de Camembert. Et toute l'équipe marketing est venue à expliquer comment ils étaient arrivés à cette idée pour changer un petit peu la perception, comment ils avaient développé l'offre, sur quel code ils étaient appuyés. Ils ont montré l'ensemble des actions de relations presse qu'ils avaient faites, la communication. Et c'était vraiment un cas hyper passionnant et une équipe hyper passionnée. Et je me suis dit en les voyant, bah en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai vraiment eu un coup de cœur à ce moment-là. Bah alors bien sûr, il y avait eu plein de jalons pédagogiques qui avaient été posés avant. J'avais fait des stages où je m'étais effectivement déjà engagé sur des voies plutôt commerciales et marketing. Mais voilà, il y a eu un révélateur à ce moment-là et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure marketing.
Si je remonte juste quelques années en amont, quand tu étais en terminale, tu savais que tu voulais faire une école de commerce?
Quand j'étais en terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai choisi une option plutôt vers le commerce parce que ça me correspondait plus qu'un profil ingénieur, mais je ne savais pas quelle discipline dans le commerce j'allais embrasser par la suite.
D'accord. Et tu fais partie des rares personnes à cette époque-là qui est allée faire une partie de tes études aux USA.
Oui, en fait, j'ai eu la chance. L'EM Normandie avait des programmes d'échange. J'ai fait une première partie d'ailleurs d'échange en Allemagne. Je suis parti un an à Hambourg, à la Wirtschaftsakademie de Hambourg, entre la première et la deuxième année de l'école. Et puis, effectivement, comme tu le dis, après, je suis parti en dernière année, un semestre aux États-Unis, en programme MBA pour étudier le marketing. Et je dois dire que j'étais vraiment frappé et enchanté par les méthodes pédagogiques que j'ai découvertes à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie inversée qui était utilisée. J'avais des
Ouais.
profs qui ne faisaient pas cours comme j'avais vu pendant plusieurs années, mais qui se mettaient au centre de la classe et qui distribuaient la parole aux étudiants. Et tu étais noté sur ta capacité à contribuer, à apporter quelque chose à la construction du cours. Et donc rebondir sur ce que disaient les autres, construire des arguments. Et en fait, c'était une façon très différente de travailler. Tu devais préparer en amont le document, un chapitre sur le sujet du cours. Et tu ressortais du cours, en fait, tu n'avais plus rien à apprendre parce que tu avais activement contribué à construire la solution. Et j'ai vraiment adoré ça et je l'ai utilisé ensuite en management beaucoup pour travailler avec les collaborateurs.
Ouais, puis on en reparlera, mais tu es allé aussi vers la transmission au-delà de toutes tes activités.
Absolument.
Mais alors donc tu sors de l'école, tu veux faire du camembert et donc là, tu cherches du boulot.
Exactement. Alors j'avais eu un contact pendant ma scolarité avec le groupe Danone. J'avais fait un stage de chef de secteur chez Belin. J'en ai des petits biscuits salés dans la région parisienne. Et j'ai gardé contact avec ce groupe et
Ouais, c'était façon job étudiant.
oui, c'était façon stage, tu sais, dans le cursus, il fallait effectivement qu'on puisse avoir un certain nombre de stages, d'expériences professionnelles. Et donc j'étais à la direction régionale de Paris et j'avais travaillé sur une opération notamment commando pour les fêtes de fin d'année. Enfin, je passe les détails, mais ça avait été hyper formateur pour moi et je suis resté en contact avec le groupe et j'ai eu l'opportunité de partir pour Danone, donc en Allemagne, de nouveau,
C'est quoi
pour.
cette accointance avec l'Allemagne?
Ben,
Il y a une histoire derrière ou pas?
non, pas. Enfin, il y a eu des. J'étais pas hyper studieux en allemand jusqu'à l'école, je dois dire. C'était ça. Mais j'ai eu je sais pas, une convergence de facteurs. Mais j'ai eu l'opportunité de faire cette année de césure entre la première et la deuxième année à Hambourg, où là j'ai découvert le pays de l'intérieur et je me suis Voilà, je me suis plu et du coup, comme j'avais eu cette expérience hyper riche, j'étais quasiment bilingue en sortant d'un an forcément en
Eh
Allemagne.
ouais.
Danone a été a misé sur cette compétence pour m'envoyer faire un truc assez sportif quand même, puisque l'enjeu c'était d'aller m'occuper de la marque Kronenbourg à Mayence et
Aller
l'idée donc de
vendre de la
vendre,
bière aux Allemands.
voilà, de la bière française en
La
plus, hein,
bière
n'est-ce pas?
française aux Allemands, ouais,
Donc
c'est que ça
c'était
challenge.
effectivement c'était un beau défi Un sacré challenge. En fait, Kronenbourg avait lancé une bière sur un concept de gastronomie à la française dans les années 80 et ça avait plutôt bien marché au début. Mais le marché allemand, c'est un marché très concurrentiel avec énormément de brasseurs et Kronenbourg avait plutôt tendance à perdre des parts de marché. Donc l'enjeu, c'était de faire un peu un diagnostic, stop ou encore. Et moi, sortant d'école de commerce, j'avais fait un beau document qui disait soit on continue et voici les conditions dans lesquelles on peut y arriver, positionnement, pricing, etc. Soit on arrête. Et il s'est rien passé de tout ça, puisque on a Warsteiner, le leader allemand de la bière, qui est venu voir Kronenbourg en France en disant qu'il voulait s'installer en France. Et nous, on lui a dit, bah, écoute, c'est une très bonne nouvelle, on va t'aider, mais il faudrait que tu nous aides en Allemagne. Et on lui a proposé en fait de reprendre la commercialisation de la Kronenbourg cœur de marché qui n'était pas très différenciée, de la remplacer par sa Warsteiner. Donc ma première expérience marketing a consisté à tuer une marque. Il faut savoir le faire. Mais ça a été chouette parce que donc ils ont remplacé la Kronenbourg pas très différenciée par leur Warsteiner que tout le monde connaissait et ils ont distribué en contrepartie toute une série de bières de spécialité que Kronenbourg avait dans son portefeuille, donc la Grimbergen, la Mort Subite, la Well Scotch, ce type de bière, qui représentait 40% du marché allemand, qui était en croissance à deux chiffres, mais Warsteiner n'avait pas ses produits dans son portefeuille. Donc on a fait un deal hyper intéressant, où finalement, nous, on a résolu un problème sur le cœur de marché, on est allé se bagarrer plutôt sur les 40% en très forte croissance, on a permis à Warsteiner d'avoir un portefeuille et une offre produit beaucoup plus large, on est ressorti de là, il y avait plus de Kronenbourg, mais il y avait de la 1664, de la Grimbergen, de la Mort Subite, et c'était une super expérience, surtout
Ouais,
que...
c'est formateur, ouais, en tout cas.
Exactement, et c'était d'autant plus formateur que c'était le groupe Danone derrière, donc des structures, des moyens... Je me rappelle de séminaires marketing internationaux à Evian qui étaient extraordinaires avec toutes les équipes internationales. Et en même temps, moi j'étais dans une structure de 16 personnes à Mayence. Et donc je suis rentré vraiment dans l'entreprise en embrassant toutes les fonctions. J'avais la comptabilité juste à côté de moi, la direction financière. C'était une très petite équipe. Et du coup, j'ai énormément appris pendant ces 2 ans à Mayence.
Et l'agroalimentaire, ça venait vraiment de ton expérience Cœur de Lion? C'était vraiment ça le fait générateur?
Ouais, je pense qu'en fait, il y a quelque chose que intimement qui me parle dans l'alimentation et je me suis rendu compte après pourquoi. C'est quelque chose qui est d'une extraordinaire complexité, en fait, l'alimentaire. Et c'est, je trouve, très identitaire en vérité parce que c'est quelque chose que c'est les ingrédients, tu les mets à l'intérieur de ton corps. Donc il y a quelque chose, tu fais un lien très rapidement entre ce que tu manges et ta santé. Et puis, tu te rends compte que finalement, en fonction des choix que tu fais, des types d'aliments que tu vas manger ou des types de produits que tu vas choisir, eh ben, tu as une capacité à faire bouger les choses de manière absolument incroyable. Si tu choisis un produit bio plutôt qu'un produit standard, bah, tu vas simplement, en changeant de paquet de jambon, pour prendre cet exemple, changer, tu vas offrir la possibilité d'ouvrir des perspectives nouvelles à des éleveurs. Tu vas contribuer à lutter contre un certain nombre de grandes problématiques, on va en reparler. Et en fait, c'est un univers d'une richesse qui est incroyable, et surtout, comme c'est un univers avec des achats très répétés, en fait, on peut changer le monde très souvent. C'est des cycles courts, donc on peut changer et on peut voir assez rapidement les effets de son travail.
On est d'accord que dans les années 90, on n'en était pas encore là. Enfin, je sais pas, enfin, je m'en souviens un petit peu, mais il y avait une conscience de qualité, ouais, certainement. Mais finalement, ce chemin de se dire ce que je mange conditionne ma santé. Ou peut-être que j'étais trop jeune à l'époque pour me dire ça, hein, parce que
Non,
voilà.
enfin, c'était émergent, mais c'était encore très très peu visible. Tu as raison, le cœur de l'offre, c'était le plaisir et c'était la nutrition, ça qui commençait à monter en puissance pour dire il faut que le produit soit bon et bon, bon au goût et bon pour la santé. On ne parlait pas encore de bon pour la planète, pas du tout, ou très peu.
Bon, et t'es chez les teutons. Et là, c'est quoi? C'est le sieur qui te fait les yeux doux ou c'est toi qui
Oui,
parles?
alors c'est assez pragmatique. J'ai rencontré ma future femme en classe prépa.
D'accord.
On a fait nos études tous les deux.
Comme quoi, ça sert aussi à ça.
Exactement, absolument. Et tu vois, on a fait un parcours incroyable parce que moi, je suis parti à l'EM Normandie, donc au Havre. Elle a eu lycéenne, donc Nancy. Je pense qu'on ne peut pas
Ouais.
faire plus éloigné géographiquement en France, en tout cas. Donc on a fait nos études comme ça, de manière éloignée. Moi, je suis parti en Allemagne, elle était à Nancy. Ensuite, elle est partie en Angleterre faire une partie de ses études, j'étais au Havre. Je suis parti aux États-Unis, elle est restée en France. Et après, je suis parti faire cette expérience chez Danone. Et au bout de
Et pour
5 ans,
rappel,
on...
pour les moins de 30 ans qui nous écoutent, à cette époque-là, il n'y a que des téléphones fixes, Internet est balbutiant et de toute façon, sur les communications, ça ne marche pas. Ça coûte un bras d'appeler à l'étranger. Enfin, c'est une
C'est très
galère.
très juste. C'est une
Ouais.
bonne remarque. D'ailleurs, j'ai une collection de cartes téléphoniques
Tu m'étonnes.
absolument incroyable qui date de cette époque. Ouais, c'est collector, tu as tout à fait
Ouais, c'était
raison.
un vrai investissement, y compris financier, là, pour le coup. Ouais.
Absolument. Et donc, au bout de 5 ans, voilà, on avait fait tous les deux des parcours assez chouettes. Et on était toujours très amoureux. Et on s'est dit que, bah, il y a un moment donné, il fallait qu'on se retrouve. Et donc, j'ai décidé de rentrer en France. Danone m'avait proposé de repartir en Italie pour faire Harel, qui était une super mission aussi, mais voilà, j'ai fait ce choix et c'est comme ça que j'ai croisé la route de l'Ossière et je suis rentré dans cette boîte en 98 et j'y suis resté un peu plus de 10 ans. Je me suis vraiment amusé de manière, j'ai pas vu le temps passer. C'est une boîte qui m'a donné
C'est bon
l'opportunité
signe.
de changer de poste quasiment tous les 2 ans. Et j'ai commencé sur des fonctions marketing. Donc je suis rentré assistant chef de produit. J'ai fait plusieurs catégories. J'ai fini chef de groupe. Là, il y a un nouveau directeur général qui est arrivé, qui m'a dit, écoute, ton parcours marketing, il est intéressant, mais si tu veux continuer d'évoluer dans l'entreprise, il faut faut que tu fasses tes armes sur d'autres fonctions. Il m'a proposé de prendre des fonctions commerciales. Et donc, je suis devenu compte-clé. Donc, tu sais, le compte-clé, c'est le négociateur. Qui va voir Carrefour, Auchan,
Oh, mais
Système U
raconte-moi ça, raconte-moi, c'est super intéressant ça.
et qui négocie voilà ce qu'on appelle le plan d'affaires. Donc c'est effectivement un métier assez génial, assez difficile aussi hein, parce que
Ouais, les images d'Épinal qu'on a des acheteurs de la grande distrib sont justes.
Elles sont justes, oui, elles sont très justes. Moi, j'ai connu des acheteurs géniaux, j'ai aussi connu des sacrés bourricots.
On donnera pas de nom.
Et je donnerai pas de nom, mais j'ai passé, en tout cas, c'était dur pour moi parce que je venais du marketing et me confronter à cet univers qui était voilà, proche, mais quand même un petit peu différent. Avec, en plus, j'étais le premier marketeur de Le Sueur à passer au commerce, donc j'étais regardé un peu par tout le monde en mode il va se planter ou
Ouais.
comment le marketing peut espérer réussir en commercial, c'est pas les mêmes métiers. Il y avait un peu comme dans beaucoup de boîtes une petite guerre entre le marketing et le commerce à cette époque. Et je me suis rarement autant donné dans un job parce que je voulais montrer que c'était possible et que ça allait marcher, avoir une sensibilité marketing pouvait être hyper, hyper utile d'un point de vue commercial. Et donc la première année, je me rappellerai toujours, j'ai été le dernier compte-clé à signer les accords de l'année parce que je ne voulais pas lâcher.
D'accord.
Et ça s'est fini dans le bureau du directeur des achats de mon client avec mon directeur commercial. Vraiment un moment assez dingue. Et on a fini par signer. Et l'année d'après, j'étais le premier à signer parce que j'avais tiré tous les enseignements et puis que je pense que j'avais conquis une forme de respect de la part de l'acheteur en face. Aussi
D'accord, parce que tu n'avais
en
pas
faisant ça.
lâché.
Ouais, je pense, je pense.
Parce qu'ils essayaient de te faire lâcher sur quoi? Sur le prix, sur ta marge, sur...
Oui, bah tu sais, c'est tous les dans une négociation de ce type-là, c'est tous les leviers sont bons pour d'un côté améliorer la rentabilité du distributeur, de l'autre développer les ventes de l'entreprise. Donc tu dois trouver un terrain d'entente et une bonne négociation, en fait, c'est une négociation où chacun tire quelque chose qui va dans son objectif. Donc l'enjeu de la négociation, c'est de trouver les passerelles, les rapprochements pour que chacun sorte de la négociation en ayant le sentiment d'avoir atteint son objectif.
Si tu
C'est
avais
un art, hein, vraiment.
un tips comme ça à partager sur l'art de la négociation, ce serait lequel?
C'est d'abord beaucoup de d'écoute, de compréhension des besoins du client, parce que si t'as pas compris la direction dans laquelle il voulait aller, bah
Tu
tu peux
peux passer
passer
à
beaucoup de
côté.
temps à tourner autour du sujet, et puis être extrêmement ferme aussi, parce que tu es là pour représenter ton entreprise et y a des enjeux économiques, financiers, d'emploi derrière qui sont monstrueux, donc être extrêmement ferme aussi sur la conduite de tes propres objectifs. Moi, j'en ai tiré énormément d'enseignements pour la suite parce que j'ai pas fait le même marketing après cette expérience-là. J'ai énormément travaillé notamment sur tout ce qui concerne la définition des objectifs en amont, tu vois, des projets. Parce que quand tu fais une négociation, à la fin de la négociation, tu sais si tu as réussi ou pas. De manière factuelle, c'est oui ou non. Quand tu réalises une opération marketing, quand tu mets en place une action de communication, c'est extrêmement important aussi de définir ce qu'on appelle les KPI, les critères de succès, en amont de ton opération, parce que ça va te permettre de savoir si tu as vraiment été dans ton objectif, si tu l'as dépassé, pourquoi. Et souvent, on a tendance effectivement à regarder des indicateurs d'image de marque, des indicateurs de performance, mais qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont un peu marketing dans le sens ésotérique pour l'entreprise. Le marketing, pour moi, ça sert aussi à créer de l'attachement, ça sert aussi à créer de l'engagement auprès des consommateurs, et ça doit se voir dans tous les indicateurs que tu suis par la suite. Donc, ça m'a beaucoup aidé.
Et comment tu fais quand tu as un patron à qui tu dis, bah voilà, le bon objectif, c'est 100, et que lui te dit, ouais, mais on va mettre 130 plutôt.
Bah, c'est comme avec un client, tu
Tu
discutes, tu argumentes,
négocies.
tu expliques, tu donnes ton point de vue, tu montres effectivement le chemin que tu comptes pas parcourir et on arrive toujours à un accord. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement la négociation, c'est un sujet quotidien en vérité. Ça se passe dans toutes les arcades, même dans ta vie personnelle, avec tes enfants, tu es en négociation permanente.
Ah
Il y a
bah tu
toujours ce
m'étonnes.
côté, effectivement, essayer de trouver le juste chemin pour avancer. Donc, ça a été vraiment une expérience formatrice et avec le recul, je lui ai jamais dit, mais peut-être qu'un jour il écoutera ce podcast, mais ce directeur général d'abord m'a donné une chance incroyable et ce directeur commercial qui m'a accompagné pendant ces quelques années a été un des plus grands mentors de ma vie professionnelle, en fait. Il m'a vraiment aidé à franchir un cap. Ça m'a énormément donné confiance en moi, en fait, parce que quand tu réussis une négo comme ça dure, eh ben, il se passe quelque chose, hein, parce que
Ouais.
c'est quelque chose que tu as
Quand
été
tu
chercher
sors,
vraiment au plus profond de toi-même.
ouais, j'ai connu ça pendant longtemps, quand tu sors avec le contrat signé, ouf,
Exactement, voilà.
ça fait du bien. Alors ça fait du bien pendant 10 secondes, hein. Après il y a le trimestre d'après ou l'année d'après qui revient. Et puis, une fois que c'est vendu et négocié, faut délivrer aussi.
Oui, absolument, c'est le début d'une autre aventure, hein, je suis d'accord. Et donc, j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans, et après, j'ai été nommé directeur des ventes, donc toujours sur une activité commerciale, sur une business unit qu'on montait de toutes pièces, en restauration, donc un nouveau circuit de distribution. J'avais été beaucoup dans la grande conso et les distributeurs type Carrefour et autres. Et là, on était donc, on s'adressait à Quick, à Pierre et Vacances. À des gens qui en fait achetaient de l'huile aussi, mais plutôt pour la cuisine des restaurants que
D'accord, ouais.
pour un produit fini utilisé par les consommateurs. Et ça, ce sont des ventes un peu différentes parce que les ventes en GMS sont rythmées par une loi qui dit qu'on doit avoir terminé au 28 février. Et donc, tu as un cycle qui est bien cadencé au long cours.
Il y a une explication à cette date?
Oui, c'est le législateur qui a voulu que les plans d'affaires soient terminés une bonne fois pour toutes à un moment dans l'année pour qu'on puisse passer à l'année suivante parce que sinon c'était une négociation permanente avec en permanence des allers-retours, des contreparties additionnelles demandées et c'était extrêmement compliqué pour les deux parties
Ah,
de s'en
d'accord.
sortir. Et donc je suis passé sur la restauration et là c'est pas du tout les mêmes, c'était hyper intéressant aussi parce que c'est pas les mêmes publics d'acheteurs. c'est des acheteurs beaucoup plus investis dans les produits. C'est des passionnés de bouffe, pour le coup. Et donc là, tu as des discussions beaucoup plus liées à ce que tu vends.
C'est plus à la valeur produit que au prix, par
Que
exemple.
qu'aux contreparties, exactement. Et un des dossiers les plus chouettes que j'ai eu à travailler à ce moment-là, c'était pour l'enseigne Quick, tu sais, l'enseigne de restauration, qui est un concurrent de McDonald's.
Qui a été racheté
Et
par Burger King.
absolument. Et à l'époque, Quick utilisait des pour faire ses frites, ils en font beaucoup, hein, ils utilisaient de l'huile de palme, qui est un produit pas cher, très pratique pour les collaborateurs parce que c'est solide et donc c'est facile à mettre dans la friteuse. Et l'enjeu, c'était de les convaincre de sortir de ce produit pour deux raisons. Des raisons nutritionnelles d'abord, parce que l'huile de palme, c'est très riche en acides gras saturés, donc d'un point de vue santé, c'était pas extraordinaire. Et aussi pour des raisons environnementales qui sont venues ensuite, hein, mais il y avait les sujets déjà de la déforestation
Ça,
qui
c'était
étaient.
déjà sur la table,
Oui, c'était
la
déjà sur la table.
problématique huile de palme était déjà sur la table.
Pas comme elle l'est devenue après, mais c'était déjà un sujet émergent et Quick a eu, je dirais, l'intelligence de le percevoir et de voir un avantage compétitif à se saisir de ce sujet un peu en avance de phase.
C'est un truc qu'ils ont utilisé derrière en marketing, eux, par exemple,
Bah, tu vois, c'est là où moi j'ai utilisé à la fois mes compétences commerciales et marketing pour les accompagner. C'est que, on a fait véritablement un travail d'argumentation à 360 pour expliquer que c'était intéressant de changer. C'était objectivement très difficile au début parce que c'est un produit. On leur a proposé une solution sur mesure avec des mélanges d'huile très particuliers par rapport aux usages qui était grosso modo 20% plus cher que ce qu'ils avaient.
Ah
Pour un
ouais, c'est pas
acheteur,
rien.
c'est hyper compliqué dans ces standards d'acheter 20% plus cher.
Tu
Donc
m'étonnes.
on a travaillé avec la R&D notamment, la recherche et développement, pour démontrer que ces 20% de surcoût à l'achat allaient être en partie, voire totalement couverts grâce au gain à l'usage, parce que c'était une huile, comme dans sa composition, qui était plus résistante, on va dire, et donc elle devait durer 20% plus longtemps. Donc on a fait tout un tas de protocoles de test en restaurant avec la R&D, avec des gens vraiment super investis aussi, et on a réussi à démontrer ça. Et du coup, le prix n'est plus devenu un sujet. Et on a basculé sur cette solution. Et ce qui était absolument génial, c'est que 24 heures avant d'annoncer ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais McDo a eu vent du
De
fait que
leur
Quick allait
mouvement.
bouger. Ils ont sorti un communiqué de presse pour dire que eux aussi bougeaient, pour essayer de couper l'herbe sous le pied de la conférence de presse qu'on avait prévue le lendemain. Donc c'est une bonne guerre. Mais nous, on avait fait vraiment une belle conférence de presse avec des invités enfin, qui ont parlé de sujets nutritionnels, qu'on a vraiment développé le travail de recherche qu'on avait fait. Ça a duré 2 ans, hein, c'était un très gros dossier. Et Quick a eu des retombées presse incroyables et bien supérieures à celles de McDo. Mais je pense que c'était une des. Voilà, c'était à la fois une belle victoire pour le sueur, et parce qu'en plus le sueur a été cité dans ses articles, mais c'était aussi une très belle victoire pour le client. Donc, très très bon moment de conquête chez le sueur à ce moment-là.
Tu penses qu'il y avait eu une fuite en interne ou pas?
Oh, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est enfin, le fait que Quick s'intéresse au sujet de la nutrition, c'était sur la table depuis longtemps parce que c'était vraiment des grands axes de communication qu'ils avaient pris. Et je pense que McDo était aussi sur les mêmes problématiques et que voilà, ils se sont dit à un moment donné, il y a quelque chose là, on sent que ça va bouger. J'ai aucune idée de comment ils ont eu l'info, vraiment, mais.
Derrière, tu es allé chercher McDo, toi ou pas?
On leur avait proposé, oui, bien sûr,
Ah ouais.
tout à fait, de travailler sur une formule aussi spécifique pour eux, etc. Et j'ai gardé très très bon contact avec McDo, ça n'avait pas pu se faire à ce moment-là, mais bah, tu vois, je les ai retrouvés chez Fleury Michon un peu plus tard sur un autre sujet.
D'accord.
Donc ça a clôturé l'expérience commerciale chez Le Sueur, et à ce moment-là, en fait, Le Sueur décide de racheter une nouvelle activité qui était les sauces. Alors pour les consommateurs, c'est assez transparent parce qu'il a toujours vu des vinaigrettes Le Sueur. Mais dans l'histoire économique de l'entreprise, c'est une activité qui avait été lancée par l'entreprise et puis cédée en licence de marque à Campbell. Et donc la marque n'était plus gérée sur les sauces par-dessus. Et donc, on décide de la racheter quelques années après, c'est-à-dire qu'on était passé de 50% de parts de marché au moment où on cède à 12%.
C'est un
Et
sacré
donc,
bonhomme, ça.
c'était, voilà, les positions étaient beaucoup moins confortables. Et donc, à cette occasion-là, on crée une task force et une petite BU quasiment dans l'entreprise. Et mon directeur général me propose de prendre la direction marketing de cette business unit. Et avec.
C'était sauce marketing director.
Exactement.
Ça, c'est un vrai titre de noblesse, ça.
Ça se mérite, cher Pierre, ça se mérite, absolument. Donc, tu vois, c'était une nouvelle activité sur laquelle on n'était pas du tout leader, alors que sur lui, le sur était ultra leader. Il y avait des très belles marques en face, comme Amora, Benedicta. Et moi, j'ai la mission de créer une équipe ad hoc pour remonter très rapidement les parts de marché. Et là aussi, ça a été une aventure très entrepreneuriale, en fait, et passionnante, parce que je suis allé chercher des compétences internes, des gens qui avaient envie de se lancer dans ce défi, des compétences aussi à l'extérieur. On a monté une équipe, et en l'espace de 2 ans, on a lancé, à côté de Le Sieur, la marque Isiocat sur le segment des vinaigrettes, la marque Puget aussi, qui appartenait à Le Sieur. On a énormément élargi les gammes, et on est passé de 12 points de part de marché à quasiment 14 en 2 ans, ce qui a été vraiment
Je me rends
une
pas
belle
compte,
performance.
c'est quoi l'impact, enfin, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi?
Alors, j'ai plus les équivalences en tête, mais c'était vraiment un retournement de tendance extrêmement percutant.
D'accord.
Et ça a été un peu le fer de lance de Le Sueur. Ça a obligé à rechallenger, c'est hyper intéressant parce que ça. Campbell avait développé des process différents de ceux de Le Sueur, donc ça a obligé de rechallenger aussi la façon dont le groupe avait travaillé pendant plusieurs années. On a essayé de faire en sorte de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pas essayer d'appliquer exclusivement le système Le Sueur sur les sauces, mais quand il y avait des choses intéressantes, notamment sur l'innovation, ils avaient un process assez chouette. On l'a plutôt appliqué sur l'ensemble de Le Sueur plutôt que d'essayer de leur imposer le système qu'on avait historiquement. Donc ça, c'était intéressant aussi dans la capacité, tu vois, d'intégration des compétences, des savoir-faire dans les équipes.
Parce que c'est enfin innover quand même dans ces domaines-là, c'est pas forcément évident, hein.
Oui, mais c'est plus facile, j'ai envie de te dire, dans les sauces que dans les huiles. Parce que tu as des variétés de goût, parce que tu as des façons. Il y a eu des développements, tu vois, notamment de squeeze, donc des logiques de praticité pour déposer plus facilement les sauces. Il y a vraiment la diversité des recettes. Donc ça bouge quand même plus vite que le marché de l'huile, hein.
Bah, après, entre une huile d'olive et une autre, bon. Et puis, mais Isio 4, c'est toi?
Non, c'est pas moi, c'était présent avant que j'arrive, mais moi
D'accord.
j'ai vraiment travaillé enfin retravaillé la plateforme de marque d'Isiocat parce que c'est une huile, c'était un concept absolument
Parce que ça, c'était
unique.
disruptif. Enfin, je sais pas si on peut dire disruptif, mais en tout cas, ça,
Ouais, tu as raison,
c'était un vrai
c'était le terme.
différenciant quand même.
C'était le fait de dire la somme de 4 huiles sera supérieure à une seule. Et c'est d'ailleurs le seul segment de marché sur lequel. Le Sueur avait un leadership total, 80% de parts de marché. Les marques distributeurs n'arrivaient pas à percer parce qu'en face, il s'appelait 4 huiles. Et 4 huiles, bah, ça ne dit pas ISO 4, en fait. C'est là où on se rend compte de toute la force d'une marque, finalement, de son capital émotionnel au-delà de son capital fonctionnel. Et ça, c'est vraiment des sujets passionnants. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé de manière consciente à intégrer les sujets de l'environnement dans le marketing. Et les sujets de la RSE.
Pourquoi spécialement à ce moment-là?
Parce que entre-temps, j'étais devenu papa, je me suis quand tu as des enfants, tu te réinterroges en profondeur sur finalement
Tu
non
te
seulement ce que
projettes un
tu leur
peu
donnes.
plus dans l'avenir, peut-être encore. Ouais.
C'est ça, tu t'interroges sur ce que tu leur donnes à manger, tu dis comment je vais faire, comment je peux contribuer à ce qu'ils aient un avenir digne de ce nom, serein, au moins aussi beau, un environnement au moins aussi beau que celui que j'ai connu. Et objectivement, quand tu regardes, moi, ma première fille est née en 2000, quand tu regardes quand tu regardais les projections, c'était pas très joyeux. Et je pense que
ça l'est toujours pas tellement, hein, donc
ça l'est toujours pas tellement. Je suis d'accord. Mais ça, enfin, les choses, enfin, la prise de conscience s'accélère et j'espère contribuer moi à mon niveau à l'accélérer encore. Mais en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, je crois, que le marketing c'était la fonction probablement la plus importante dans l'entreprise pour changer sur les sujets de la RSE, parce que
d'accord.
Le marketing, sa fonction, sa définition, c'est d'être aux commandes de l'offre. Donc, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, si tu veux, c'est ce qu'on nous apprend, c'est à réconcilier le savoir-faire d'une entreprise et les attentes d'une cible de consommateur. Marketing, ouais. C'est ça, c'est mettre en relation ces deux tensions. Ça, c'est du marketing en deux dimensions. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on doit faire un marketing en trois dimensions. C'est ça le marketing responsable, où tu gardes bien sûr les deux sujets d'adéquation offre et demande, mais tu rajoutes une dimension sociétale. C'est-à-dire que tu dois systématiquement, à chaque fois que tu te poses, que tu prépares un développement produit, là, tu dois te poser la question de savoir si c'est un projet, un produit qui sera viable à 20 ans. Parce que toutes les décisions que tu prends, elles doivent engager le futur de l'entreprise. Et quand tu te mets dans l'alimentaire, si on projette les courbes de ce qu'on a collectivement construit depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis la guerre, on a décidé que plus personne n'aurait faim, c'était parti d'une très belle idée, hein, et qu'il fallait pouvoir nourrir tout le monde au meilleur prix.
C'est donc là où on voit un problème générationnel, David, c'est que 1945-2020, ça fait plus que 50 ans.
Oui, oui, c'est sûr.
On est plutôt près des 70 que des 50.
C'est très juste. Mais écoute, c'est vrai que ça va peut-être pas assez vite, en fait. Mais effectivement, la cristallisation des choix qu'on fait depuis... je considère qu'ils sont remis en question depuis 10 ans, mais tu as raison. Ils sont faits dans les années suite à la guerre en se disant, voilà, c'est pas possible, la pénurie alimentaire, etc. Et donc, on décide de produire toujours plus et toujours moins cher.
Ouais.
Et on voit aujourd'hui, on a plutôt bien réussi, globalement, mais on voit tous les effets collatéraux aujourd'hui que ça produit, c'est-à-dire l'épuisement des ressources, la diminution des revenus agricoles, les impacts écologiques sur les écosystèmes, le bien-être animal. Il y a une litanie de ce qu'on appelle en RSE des externalités négatives, qui sont à l'œuvre et qui nous sautent à la figure tous les jours. Oui. Donc, quand tu es au marketing aujourd'hui, ta responsabilité, c'est de prendre ça en considération et de te projeter sur le futur. Et le truc, c'est que si on continue les courbes d'aujourd'hui jusqu'à 2050 sans rien changer, donc on va passer à 9 milliards d'individus hein, sur la Terre en 2050, c'est à peu près les projections. On sait que si 9 milliards d'individus se nourrissent selon le régime alimentaire français, européen, on va dire, voire américain, il n'y a pas assez de ressources sur la planète. Donc, et quand les hommes ont faim, là, il y a plein de livres d'histoire qui sont remplis de ça. Ça ne se passe pas bien. Hein. Mm-hmm. Donc, tu es au marketing, tu as cette responsabilité d'orienter ton entreprise pour trouver des solutions pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Et notamment... moi, j'ai travaillé chez Fleury Michon, je le disais tout à l'heure. Il faut quasiment qu'on inverse la proportion de viande et végétale par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, on nous a appris à mettre la viande au milieu de l'assiette et des légumes autour quand on avait le temps. À la fois pour des raisons nutritionnelles, mais aussi environnementales, il faut que cette proportion s'inverse complètement. C'est-à-dire que tu es 80% de légumes et 20% de viande.
Alors,
quand tu es Fleury Michon et que tu fais 80% de ton chiffre d'affaires sur la viande, c'est difficile de...
Il faut savoir l'entendre. Mais justement, c'est un point intéressant, parce que dans un épisode précédent, j'interrogeais le général Vincent Desportes, qui disait justement que les dirigeants devaient arrêter d'être dans l'immédiateté. Sauf que quand tu es chez Le Sieur ou après chez Fleury Michon, t'as en face de toi des gens qui ont des préoccupations très immédiates. Et, ils ont peut-être tendance à te dire, écoute, David, t'es gentil, mais dans 20 ans, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts.
Ben, c'est peut-être. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai vécu, et c'est peut-être pour ça que je suis rentré dans ces boîtes-là. Le Sieur, tu vois, c'est une entreprise indépendante. Elle a été rachetée par les coopératives, par les agriculteurs, en fait.
D'accord.
Et donc, il y avait une vision du temps long dans cette boîte. Et Fleury Michon, c'est une entreprise familiale. Et moi, j'y suis rentré parce que le président, quand je l'ai rencontré, m'a dit je veux que vous travailliez pour la génération suivante.
Ah, il
Donc,
savait comment te parler.
sans
Voilà.
doute. Mais je m'y suis retrouvé, voilà. Et effectivement, j'ai plein de collègues qui sont dans l'espèce d'incohérence que tu décris sur l'obsession du court terme. Et c'est très inconfortable pour eux. Et d'ailleurs, ça leur pèse énormément. Mais la seule façon de prendre les bonnes décisions à court terme, en fait, pour une entreprise, c'est de regarder à long terme. C'est la
Alors,
seule
quand
façon.
juste avant de trop avancer, quand on se retrouve donc directeur marketing de Le Sieur, avec une marque quand même, et c'est pas qu'une seule marque d'ailleurs, déjà. Est-ce que, comme dans les livres, les bons livres de stratégie, on fait des matrices avec ces marques, avec les fameuses vaches à lait, tu utilisais ce type d'outils, par exemple?
Oui, ça j'ai fait, j'ai tout, j'ai étudié le portefeuille de long, en large, en travers. Enfin, surtout le gros travail très structurant qu'on a fait avec les équipes, c'est de retravailler les plateformes de marque. Se dire
D'accord.
finalement,
Alors,
un
c'est
peu
quoi
dans
une
cette.
plateforme de marque? Vas-y, raconte-moi ce que c'est qu'une plateforme de marque.
Ben, c'était un peu dans cette logique-là, c'est de dire finalement, si on est là aujourd'hui, avec notamment cette marque Isio 4, c'est parce qu'il y a 20 ans, il y a des marketeurs à notre place qui ont pris des décisions qui font que cette marque, elle paye 40 ou 50% de ton salaire aujourd'hui. Parce qu'elle s'est développée, parce que son territoire a été extrêmement puissant. Donc comment on fait pour que dans 20 ans, ceux qui seront à notre place se disent la même chose? Donc là, ça consiste vraiment à se réinterroger sur ce qui fait la singularité, la différence de ton offre, à la fois en termes de points d'appui techniques, scientifiques, mais aussi sur les valeurs, sur une forme de vision du monde. Moi, à l'époque, j'ai utilisé beaucoup la théorie des cercles d'or de Simon Sinek, qui dit
Ah, j'adore.
on se fiche complètement de savoir ce que tu vends, ce qui intéresse les gens et ce qui inspire les gens, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Et au nom de quoi tu fais les choses. Donc, on a énormément travaillé avec l'équipe sur au nom de quoi Isio
Vous avez
4 est
travaillé
une
sur le why.
solution. Voilà. Et on a travaillé sur le why. Et ça nous a donné vraiment des axes de positionnement très très forts. On a fait des choix un peu plus, comment dire, un peu plus couillus, pardon pour le mot, mais
Oui.
notamment on a décidé, on venait donc d'avoir ce changement d'actionnaire, et on a décidé sur Fleur de Colza, qui était une des huiles du groupe, de parler des agriculteurs. C'était en 2008, et de parler d'agriculture raisonnée. Là, moi, j'étais vraiment rentré dans cette idée de le marketing doit faire bouger les choses.
Ouais, ça y est, t'étais picousé là, ça y est.
Là, j'étais, mais j'avais pas encore démontré que j'avais raison, en fait. Je l'ai démontré avec Fleur de Colza et Le Sueur.
D'accord.
En décidant de mettre en place un cahier des charges spécifique, de donner une rémunération supplémentaire à des agriculteurs qui changeaient leurs pratiques pour améliorer les choses sur le plan environnemental, et de le faire savoir aux consommateurs. Et je dois dire que donc on a mis des agriculteurs sur les PAC, on a assumé ce positionnement et cette communication,
Et ça,
et
le
ça.
directeur financier de Le Sieur, il était d'accord.
Oui, c'est pas lui du tout qui s'est posé des questions. C'est d'ailleurs le directeur commercial dont je parlais tout à l'heure qui dit mais finalement c'est bizarre ton truc. Ça fait plusieurs années que le colza est plébiscité pour la nutrition, pour les oméga-3. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à mettre des agriculteurs? Est-ce que c'est pas un peu ringard? On a eu une discussion assez géniale au comité de direction à ce moment-là. Et donc notre directeur général a tranché le débat en disant on essaye, c'est intéressant, et on a sorti la campagne, et ça a fait 12% de croissance. Et ce qui est absolument génial, c'est que ce même directeur commercial, 2 ans après, m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu mets pas d'agriculteur sur ton recette. Et c'était super.
Une fois que tu as une recette qui marche.
Mais ça, c'est ça que moi j'ai appris grâce à lui, grâce à ce travail, c'est que finalement, parler de la RSE dans l'entreprise, tout le monde est d'accord. Par contre, et sauver la planète encore plus. Hein. En revanche, quand il s'agit de s'y mettre vraiment, on ne sait pas vraiment par quel bout prendre le sujet. Donc il y a des directions RSE qui ont été créées, on a fait des audits sur les impacts, etc. Mais en termes d'expérience client, ça ne change pas grand-chose à court terme. Bon, et ben, celui qui peut changer les choses à court terme, c'est le marketing. Et le marketing, quand il prend la RSE, il peut vraiment changer le monde. Moi, grâce à cette expérience Fleur de Colza, j'ai eu la chance d'être élu personnalité marketing de l'année en 2012.
Ça, c'est classe.
Et c'est pas pour le.
Non, trophée, si, quand même, c'est classe.
Mais c'était vraiment super pour le travail qu'on avait fait avec l'équipe. Et je me suis servi de cette petite notoriété pour créer une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Et qui a vocation, qui est une plateforme en open source sur le site de l'ADEME, et qui a vocation à montrer aux marketeurs que quand ils mettent la RSE dans le business et qu'ils l'expliquent aux consommateurs, ben en fait ça marche beaucoup mieux que quand ils le font pas. Il y a une soixantaine de cas.
Pour ceux qui connaissent pas l'ADEME.
L'ADEME, parce que c'est vraiment l'organisme un peu de référence en France qui est rattaché au ministère de l'écologie, qui travaille sur les sujets d'engagement et de RSE et qui est extrêmement exigeant sur la qualité des engagements des entreprises, en fait.
D'accord.
Donc, c'est important que eux soient, pour pas qu'on soit juge et partie, qu'on ait des tierces parties extérieures qui soient capables de dire, oui, là il y a des fondements très scientifiques et exacts, mais là, en revanche, c'est pas le cas.
Et toi, tu as créé une plateforme, c'est ça que j'ai compris ?
Oui, j'ai co-créé cette plateforme avec une société de conseil qui s'appelle Greenflex, donc on a commencé à déposer les premiers cas. Tous les ans, donc, on fait maintenant une remise de, pas une remise de prix, mais on annonce les meilleures pratiques de l'année. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une conférence où il y a un ou deux témoignages et les gens viennent expliquer comment ils ont fait leur développement, mais on leur demande surtout d'expliquer, au-delà de la réussite, les difficultés qu'ils ont réussi à contourner. Parce qu'on se rend compte que pour mettre les sujets RSE dans le marketing, il y a énormément de résistance, parce que c'est un territoire relativement nouveau, parce que ça soulève des craintes, et que ces craintes soient partagées dans des moments comme ça, ça donne énormément de courage et d'énergie. Et généralement, les gens sortent avec des étoiles dans les yeux pour aller se mettre sur les sujets et à leur tour essayer de contourner les obstacles. Donc, cette plateforme, elle existe depuis 2013 et il y a 60 cas aujourd'hui qui sont en libre accès sur le site de l'ADEME. Et je suis hyper fier de ça. J'ai réuni autour de ce groupe de travail initial, il y a l'ILEC, l'ADEME, je l'ai dit, donc l'Union des marques. Donc il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a même Audencia en business school. Il y a beaucoup de structures qui, par granularité, aident aussi à expliquer comment ça marche de manière très opérationnelle. Et donc, avec cette petite notoriété, j'ai aussi été repéré par Fleury Michon, qui crée une direction du marketing stratégique, et j'ai été recruté sur une création de poste.
Chassé, donc.
Chassé et recruté, effectivement, sur une nouvelle fonction. J'ai eu vraiment un coup de cœur avec le directeur général de l'époque, Régis Lebrun, qui avait une vision hyper claire, plutôt, et de mon point de vue juste, de l'impasse dans laquelle l'alimentaire était et des perspectives de sortie extraordinairement enthousiasmantes qu'on avait si on se saisissait du sujet.
Et, tu disais que c'est une boîte familiale, c'est ça, Fleury Michon ?
Oui, c'est une boîte qui est née en 1905 et c'est la cinquième génération qui est aux commandes aujourd'hui. Ouais.
Et ça ne te faisait pas peur ?
Mais non, parce que j'y ai vu justement une dimension de temps long. Avec la rencontre avec le président qui me dit « moi, je veux que vous travailliez pour les générations, la génération qui vient », je me suis dit « on va pas être dans l'obsession des résultats du trimestre, quoi. On va être vraiment sur des sujets structurants ». Et j'avais un DG qui venait me chercher pour ça, pour vraiment transformer l'offre trouver des nouvelles voies d'innovation. C'était un type mais ultra brillant sur la perception, tu vois, des attentes de société, qui était à l'affût. Il voyageait énormément et il avait voilà une vraie conscience du shift qu'il fallait qu'on fasse collectivement, et il voulait que Fleury Michon soit un des fers de lance de ce changement. Donc on partait de loin parce que c'est une belle boîte, bien sûr, mais elle avait relativement peu communiqué dans l'histoire, et elle avait une image plutôt un peu, on va dire, patrimoniale. D'ailleurs, au début, moi, j'étais pas hyper emballé par la marque, mais j'ai été emballé par les gens.
Ouais, je comprends.
Et j'ai décidé, du coup, de me lancer. C'était un défi, hein.
Il y avait un directeur marketing à côté ou au-dessus, ou t'es le
J'avais
strategic marketing était un truc à
le
part.
strategic marketing était rattaché à la direction générale, donc il était au-dessus des marketing des
D'accord.
business units.
Donc tu pouvais impulser les changements.
Et c'est ça. J'étais pas. C'était en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai largement sous-estimé l'ampleur de la tâche
Ouais.
et
La
potentiellement de la
friction.
résistance au
Ouais.
changement, parce que j'étais tellement enthousiaste sur le projet et sur l'ambition stratégique que je me suis dit tout le monde va être d'accord,
Bah oui.
hein. En fait, bon, globalement, ça s'est très bien passé, même s'il y a eu des moments très difficiles. Mais en fait, j'ai eu, je sais pas si c'est de la chance, hein, après, faudra. Je pense qu'il n'y a jamais de
C'est la
hasard,
chance
mais
qu'on provoque aussi. Voilà.
ouais, je pense que c'est. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après mon arrivée, il y avait la crise du cheval dans les lasagnes. Tu sais, ce
Ouais.
fameux horse gate là où effectivement
Ouais.
il y avait eu une fraude. Fleury Michon a trois activités, la charcuterie qui est la grosse activité historique, le plat cuisiné et le surimi qui est la dernière qui était arrivée dans les années 90. Et donc les consommateurs nous appelaient, mais à la fois terrifiés pour certains d'entre eux et pour un certain nombre d'entre eux d'autres, très en colère, en disant c'est juste pas possible, comment ça se fait?
Parce que
Vous
Fleury
avez
Michon avait des, enfin, était
dans les plaques,
directement impacté.
pas du tout, on n'était pas du tout concernés, mais comme on
Est-ce qu'il
faisait
y a
des
du
plats
cheval dans mon
cuisinés,
jambon? Ben non, voilà.
non, mais c'était plutôt sur l'activité plats cuisinés, tu vois,
Ouais.
quand on faisait des plats cuisinés à base de viande, les gens se disaient, mais attendez, est-ce que vous pouvez me garantir que la viande qu'il y a
Ouais.
dans vos plats cuisinés, c'est pas du cheval, parce que là, je ne sais plus qui croire. Et donc les gens très inquiets et très énervés. Et donc on leur explique systématiquement que on fait pas du tout d'achat spot, que nous on a des contrats longs et que du coup on n'est pas concerné. Bon, très bien. On arrive à les rassurer un peu, mais il y a une grande
Des
partie d'entre eux
achats.
juste à ce moment-là qui dit, mais au fait, vous mettez quoi dans le surimi? Et tu vois bien, ça traduisait magnifiquement la crise de défiance. Parce que c'était pas un problème sanitaire, c'était un problème de confiance qui était posé par cette fraude. Et le surimi, c'est un peu l'archétype du produit bizarre, hein,
On est
très.
d'accord, oui.
Les Français adorent ce produit, c'est le deuxième marché mondial derrière le Japon. Mais on n'a jamais expliqué la recette. Ça a été présenté comme un produit ultra tendance, ultra moderne dans les années 90 quand il est arrivé. Et tout le monde en mange, mais tout le monde se dit, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et même pire que ça, les gens sont convaincus que c'est fait avec des yeux de Bernard Lhermitte et des arêtes. Hein.
Et c'est
Et à
pas ça.
l'époque, ben non, en fait, pas du
Ok.
tout, parce que ça
Ça va, ça
marcherait
va.
pas. Hein.
C'est non, non, mais c'est bon. Autant se
Ça
rassurer tout de suite.
on pourrait pas faire du surimi avec des arêtes, ça marcherait pas.
D'accord.
Physiologiquement, c'est impossible. Du coup, cette question énorme, elle arrive, et à ce moment-là, moi, je venais juste d'arriver, et l'équipe surimi marketing avait prévu une campagne de pub. Et c'était une campagne de pub comme on nous a appris à faire à l'école, c'est-à-dire que avec des consommateurs, enfin des gens qui se régalaient en
Des
mangeant
gens
du surimi
heureux.
dans une cuisine, etc. Et je me suis dit que si on sortait ça à ce moment-là, ça allait pas bien se passer du tout, parce que c'était émotionnellement pas du tout raccord avec ce qui se passait autour. Donc j'ai bloqué cette campagne, ce qui
Tu t'es
n'a
fait
pas été
des amis ce
très
jour-là, non?
très facile forcément, parce
Ouais.
que ils avaient tout était prêt. Et on a repris le sujet à zéro, en disant finalement comment on peut essayer de convaincre les gens que ce surimi chez Fleury Michon il est fait correctement. Ce qui était le cas, hein, parce que pour le coup j'avais vérifié moi-même avant. Et on a pris le contre-pied complet en fait du marketing classique. On a fait une campagne pour dire aux gens, écoutez, ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. Et on a proposé aux consommateurs de remonter toute la chaîne depuis leur supermarché, en passant par l'usine où était fabriqué le surimi, en allant jusqu'en Alaska, puisque c'est là qu'on achetait le poisson, pour à la fois leur montrer que c'était du poisson, que ce poisson, on en prélevait bien les filets et qu'on enlevait les arêtes.
T'as amené
Bref, un
des
dispositif.
consommateurs en Alaska?
Et on a emmené des consommateurs en Alaska,
C'est
absolument.
génial ça.
Mais aussi des blogueurs, mais aussi des journalistes. L'objectif, c'était vraiment d'avoir des parties, ce qu'on appelle des parties prenantes hein, aujourd'hui,
Ouais.
dans leur diversité, qui puissent, un peu comme Saint Thomas, finalement, regarder, soulever le capot et se faire une opinion objective, avec bien sûr toutes les questions auxquelles on était amené à répondre, etc. Et donc, on a fait ça. C'est une campagne qui a duré 6 mois. Et là aussi, comme sur Fleur de colza, il s'est passé un truc de fou, c'est que. En termes de business, on est passé d'une situation de décroissance, on était à moins 5 avant la crise, et on a fini l'année à plus 12. Et la business unit surimi, qui était un peu la business unit en retrait par rapport à ses collègues de charcuterie et plats cuisiniers qui étaient en croissance, c'était le vilain petit canard un peu. Et en l'espace de 6 mois, c'est devenu les héros de la boîte, quoi.
Ouais,
Et moi, ça, c'est
d'accord.
des moments que j'adore dans l'entreprise, des moments de retournement, des moments de transformation, en fait, où j'ai revu des gens qui reprenaient, tu vois, la joie de vivre, c'est tout bête, mais ils étaient fiers, quoi, en fait. Et c'est eux qu'on est venu voir ensuite pour prendre des conseils sur la façon de faire la suite. Et du coup, je me suis servi de ça. Là, pour le coup, c'est 100% du marketing ce que j'ai fait, mais du marketing au sens que j'aime, c'est-à-dire un marketing en 3 dimensions, où tu prends vraiment, tu t'appuies sur les savoir-faire de l'entreprise et tu vas révéler la valeur ajoutée à la fois produit et sociétale de ton produit. Et ça marche. Et derrière, je me suis servi de ce succès, puisque finalement. Fleury Michon, comme beaucoup d'entreprises, c'était une boîte qui disait vivant heureux, vivant caché. Et donc, il y
Ouais.
avait relativement peu
Souvent dans les
communiqué.
boîtes familiales, hein.
Oui, exactement. Ouais. À travers cette campagne, finalement, dont tous les collaborateurs ont entendu parler par leur père, ça c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que dans les dîners en famille, on parlait de cette campagne parce qu'elle était très différente des autres. Et parce qu'elle posait un sujet important sur la table, c'était celui de la confiance. Et du coup, les gens se sont dit finalement, ce qu'on fait, presque comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire sans le savoir, ça intéresse peut-être plus les gens que ce qu'on
Ouais.
pensait.
Puis c'est hyper valorisant pour eux aussi.
Et
Enfin, quand
c'était,
c'est
bien
du
sûr.
buzz positif, c'est
Bien
valorisant
sûr, mais
pour les
c'est.
collaborateurs.
Moi, je me rappellerai toujours de la campagne, elle est née sur une discussion avec l'agence de publicité. Et le directeur, le DG du Surimi de l'époque, à un moment donné, on essayait de trouver des solutions pour expliquer nos différences, et il se lève fou furieux, parce qu'on a le challenger, etc. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait 5 ans que je me casse les pieds pour faire une
Alors, il a
recette,
dit, je
mais
me casse le cul, hein. Il l'a dit,
ouais, il a dit
donc.
ça, ouais, ça je pouvais pas le dire, mais il a dit, j'ai tout fait pour que cette recette soit fière de la donner à mes enfants, j'ai enlevé tous les additifs, tous les conservateurs, je suis passé en pêche durable, ça m'a coûté 3 millions d'euros de surcoût à l'achat, ça fait 3 ans que ça dure, j'ai pas remis ça dans les prix, et la première crise, là, les consommateurs me tombent dessus et me disent que c'est pas bon. On a tous regardé, et on a dit, mais c'est ça qu'il faut dire. C'est exactement ça qu'il faut raconter comme histoire. Et tu vois, c'était vraiment le truc de ce qui se fait à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Et ça, en fait, ça a été un super révélateur pour l'entreprise. Et moi, je me suis servi de ce momentum avec, bien sûr, toujours avec le DG et avec le comité de direction pour dire, il faudrait qu'on profite de ça pour dire finalement à quoi on sert et pourquoi on se lève le matin. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de raison d'être, mais c'était la raison d'être de Fleury Michon dont on voulait se saisir à ce moment-là. Parce que historiquement, on se définissait un peu comme beaucoup d'industriels, tu sais, par la qualité ou par le type de produit, par le watt en fait, si on
Oui.
reprend Simone Sinek de tout à l'heure. Donc on disait qu'on était des fabricants de plats cuisinés, de jambon et de surimi. Et on était hyper fiers de ça. Mais en fait, tout le monde s'en fout. De ça. On a essayé du coup de s'interroger sur pourquoi on faisait ce jambon comme ça, pourquoi on faisait ce surimi comme ça, pourquoi, etc. Et donc on arrivait à, après plusieurs itérations, à une phrase très simple qui était aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et en fait, on s'est servi de cette phrase comme une espèce de boussole, de colonne vertébrale, pour aligner toutes les décisions de l'entreprise. Toutes les décisions.
C'est du Sinec dans le texte, ouais,
En,
complètement.
ouais, en
Et en
application
action.
absolue. Ouais, et donc, ça nous a servi à diminuer le nombre d'innovations, parce qu'on faisait énormément de petites innovations, tu vois, des changements de recettes, etc. Qui prenait beaucoup d'énergie aux équipes, mais qui n'apportait pas ni de statut, ni de différenciation objective à la marque. Donc, on a diminué le nombre d'innovations. On a été chercher des innovations beaucoup plus rupturistes, et notamment dans notre marché, il y avait deux sujets qui étaient très forts. Le premier, c'était le conservateur nitrite de sodium utilisé dans le jambon, qui a été classé par le CIRC comme cancérogène. Sur lequel il fallait absolument, enfin, on avait déjà travaillé, mais on a mobilisé toutes les équipes pour franchir une étape pour aller jusqu'à zéro nitrite. Et on a été un des premiers fabricants à sortir un jambon en enlevant le nitrite. En fait, le nitrite, il a trois fonctions. Il a une fonction de conservation, qui est la raison principale pour laquelle les charcutiers l'utilisent. Il a une fonction sur le goût un petit peu et sur la couleur. Donc, quand tu décides d'aller à zéro nitrite, tu te retrouves avec un produit qui se conserve 14 jours au lieu de 28,
Ouais,
qui
problème.
est légèrement gris et plus du tout rose,
Ça, c'est gros problème.
et qui a un goût plutôt de plus fibré, de viande, un peu comme un rôti de porc, en
Ouais,
fait, hein,
c'est
tu
pas
vois.
terrible.
Donc, on a adressé tous ces sujets avec la R&D. Ils ont fait un travail mais incroyable avec aussi l'industriel. Et on a réussi à sortir un jambon, mais top niveau. Qui a vraiment aidé au positionnement et à la crédibilité du manger mieux. Parce que au démarrage, quand on a commencé à en parler, moi j'avais toute l'équipe qui s'occupait des réseaux sociaux au sein de mon équipe. Et quand on parlait du manger mieux, on avait 80% des consommateurs et de la société civile en général qui avaient une opinion négative ou neutre. C'est-à-dire qu'il disait, Fleury Michon, il mangeait mieux, vous êtes mignon, mais vous êtes quand même un industriel, donc je ne vous crois pas. Et au bout de 4 ans, parce qu'on a fait, grâce à cette boussole et grâce à cette colonne vertébrale, on a pris un certain nombre de décisions visibles par les clients de changement. Donc ça a été l'adoption du Nutri-Score. Dès qu'il est sorti, on était la première entreprise à le signer, alors que c'était sur la base du volontariat et que plein d'entreprises étaient un peu frileuse. On a ensuite fait zéro nitrite. On a sorti le deuxième pain point, une nouvelle génération de plats cuisinés en barquettes bois pour remplacer 80% du plastique utilisé dans les barquettes classiques. Et en fait, tu vois, la succession de ces actions et leur cohérence ont fait qu'on est passé de 80% de négatif et neutre à 60% de positif et neutre au bout de 4 ans.
Ouais,
Donc on
mais
n'avait
parce que tu
pas.
avais prouvé. Enfin,
Exactement.
c'est.
Exactement, c'est factuel. Et donc, on n'avait pas convaincu tout le monde, parce que 60%, c'est loin d'être fantastique. Mais on avait des gens qui commençaient à nous défendre dans les interactions sur les réseaux sociaux en disant, OK, ils sont pas parfaits, mais ils ont fait ça, et ils ont fait ça. Et donc, bah, ils font peut-être plutôt partie de la solution que du problème. Et ça a une valeur inestimable.
Bah, quand tes clients commencent à prendre ta défense, oui, ça a de la valeur, oui.
Exactement. Avec toutes ces actions, à fin 2019, on était la troisième marque alimentaire préférée des Français, alors qu'on n'était même pas dans le top 10 5 ans avant, tu vois. Donc ça a été pour moi une expérience, mais d'une richesse énorme. Et je suis sorti donc en février 2020 de cette année, de Fleury Michon, en me disant, bon, j'ai eu deux expériences longues,
Le mec, il a du
un peu.
pif hein, quand même. Tu sors 2 mois avant le
Ouais, c'est passé. Écoute,
Covid.
du coup, je me suis retrouvé à réfléchir en même temps que tout le monde, ce qui était plutôt pas mal.
Ouais.
Et ma question, c'était comment je réussis à accompagner plusieurs Fleury Michon en même temps, en fait, parce que je venais de faire deux expériences longues, hyper géniales, très vraiment impliquées avec les équipes et tout. Mais compte tenu des enjeux où je vois l'accélération des inquiétudes et puis du globalement des risques qui sont devant nous. Et j'ai choisi deux nouvelles orientations assez radicalement différentes de ce que j'avais fait jusqu'à présent. La première, c'était ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est j'ai été contacté par l'ISC qui voulait monter, donc l'ISC Paris, qui
Oui,
voulait monter
c'est comme ça qu'on s'est connus.
exactement, qui voulait monter un MSI sur la communication
Marketing
et le
responsable.
marketing responsable, et qui m'a demandé si j'étais intéressé, de les aider à le faire, et je fais ça avec beaucoup de bonheur, là, quasiment depuis le mois de février.
Ouais, puis
C'est,
là
ça s'est
aussi, enfin,
fait.
t'as un track record qui fait que, ben, tu vois, là, enfin, je savais à peu près de quoi on parlait quand même, je sais pas. Mais en entendant tes expériences, je suis convaincu de toute façon que le marketing ne peut plus être que responsable.
Je suis d'accord. En fait, ça serait criminel de faire autre chose aujourd'hui, objectivement, par rapport aux générations qui viennent. Et donc, on sait que la génération qui est à l'école aujourd'hui a été beaucoup plus sensibilisée, beaucoup mieux, j'en sais rien, ou le monde voit moins bien, je sais pas non plus, mais c'est une génération qui est très en demande et qui est très mobilisée sur ces sujets-là. Et avoir la possibilité, comme ça, de leur faire un vrai retour d'expérience, de les armer pour qu'ils soient hyper opérationnels dans l'entreprise quand ils ont leur premier job, pour transformer les choses grâce au marketing. Moi, ça me fait kiffer, mais tu peux pas imaginer quoi.
Et puis, tu sais que dans la série Prise de conscience, alors moi j'ai eu une prise de conscience, j'ai pu voir que mes filles, donc de 14 et 17 ans, elles regardaient le Nutri-Score.
Oui,
C'est,
bah c'est
enfin, tu
exactement
vois, et pour
ça.
le coup, ça m'a un peu interrogé, on va dire. C'est-à-dire que, alors ça n'empêche pas de manger des trucs à la con. Hein. C'est-à-dire que, bon, elles vont préférer manger du Kit Kat que, des barres de chocolat plutôt que des courgettes, peut-être. Mais au moins, elles en ont conscience. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience.
Mais bien sûr, et du coup une exigence associée. Et moi, je pense que c'est ça qui est génial. Mais c'est il y a une pression, et le Covid a accéléré ça. Hein, il y a une pression sur les entreprises qui était déjà présente avant et qui s'est accélérée depuis, parce que justement cette connaissance, ce savoir-faire, ce principe aussi malheureusement de suspicion qui est quand même beaucoup à l'œuvre dans la société, fait que l'entreprise a intérêt à bouger aujourd'hui. Je crois que c'est Havas qui disait que 70% des entreprises pouvaient disparaître sans que personne s'en
S'en rend compte.
inquiète. C'est vraiment ce qui est devant les boîtes qui vont pas bouger. Donc la deuxième décision que j'ai prise, c'est de créer une structure de conseil qui s'appelle Transformation Positive pour aider 25 Fleury Michon en même temps, en fait. Je me dis, le sujet est
Ouais.
tellement important, et moi j'ai enfin, je dis pas que j'ai la martingale, mais je sais, j'ai eu la chance deux fois de suite de vraiment faire des retournements hyper enthousiasmants avec les équipes à leur côté. Et donc, je me suis lancé dans cette idée de le faire avec plusieurs entreprises en même temps. Et voilà, c'est parti. J'ai aujourd'hui une dizaine de clients que j'accompagne de manière très. C'est pas du conseil, tu vois, en disant voilà la direction dans laquelle il faudrait que vous alliez, c'est une fois que ça s'est posé, c'est toute la partie accompagnement technique, opérationnel, pour que ça se fasse vraiment. Que ça reste pas une bonne idée dans un rapport qui est mis dans
Ouais.
un tiroir, mais que ce soit
C'est
quasiment
pas
du
juste pour faire
coaching.
beau dans le
Et
rapport RSE de la boîte, quoi.
voilà. Et moi, je ne signe aujourd'hui qu'avec des clients qui ont vraiment envie d'avancer. Et la chance que j'ai, c'est que comme ils me connaissent un peu de ce que j'ai fait avant, les gens viennent me chercher pour ça. Et donc, j'accompagne des gens ultra motivés qui ont envie de bouger et qui sont prêts à prendre des risques. Et on les prend ensemble. Et j'ai l'impression d'être dans 10 entreprises en même temps comme j'étais chez Fleury Michon. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon rôle d'accompagnement.
Le plus gros challenge, là, il est dans la conduite du changement, toujours.
Oui, et c'est vraiment ça qui est le plus compliqué, c'est de convaincre l'interne avant de convaincre l'externe, en fait. Et donc, moi, c'est difficile d'argumenter des années, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Et je me suis rendu compte que finalement, dans toutes ces entreprises, Ça n'existe pas les boîtes qui font tout bien et puis celles qui sont pourries. Ça, c'est un monde en noir et blanc qui est juste valable pour les oppositions. Dans toutes les boîtes, il y a des pépites. Et dans l'offre que je propose aujourd'hui, il y a trois piliers. Il y a la raison d'être, se réinterroger finalement sur d'où on vient et où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça, c'est fondamental parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Hein. C'est cruellement vrai dans un moment
Oh,
d'incertitude.
c'est joli ça.
C'est pas moi, c'est Sénèque, hein, qui l'a dit.
D'accord. Mais tu vois, pour le coup, celle-là, je l'avais loupée. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Exactement. Tu
Ok.
navigues à vue, voilà. Donc, et dans un environnement là hyper hostile, avec beaucoup d'inquiétudes, si t'as pas un cap et une colonne vertébrale, bah, tu te fais balloter, et ça peut être très violent. Donc, la raison d'être, c'est le premier pilier. La détection des pépites, c'est le deuxième pilier, parce que c'est vraiment ça. Dans toutes les boîtes, il y a soit des produits, soit des équipes qui sont en avance par rapport à ces sujets de société et qui
Pour
sont
de vrai, sur tes 10 clients, tu as toujours trouvé une pépite?
toujours, toujours. Mais
D'accord.
vraiment, et parfois plusieurs. Et parfois, elle est un peu cachée, parfois, elle est vraiment, il faut vraiment la polir, etc. Mais oui, il y en a toujours, vraiment. Donc après, ça demande, une fois que tu as trouvé ça, ça demande un. C'est là où je me sers de la partie commerciale aussi, tu vois, ça demande une exigence dans l'exécution et dans la capacité à retourner cette pépite en succès commercial fondamental. Donc là, je suis en train de travailler aussi, j'ai construit petit à petit, là, depuis quelques mois, un écosystème d'agences, que ce soit du packaging, des relations presse, des affaires publiques, et maintenant de la communication. Donc un pool d'agences, des gens que je connais, dont je connais la valeur. Qui sont capables de se mobiliser en très peu de temps pour venir accompagner le client s'il n'a pas déjà des agences. Bien sûr, on essaye de faire avec les agences en place quand elles sont en place. Et c'est aussi assez enthousiasmant de voir une agence, tu vois,
Se transformer.
sortir du lot. Mais voilà, je peux amener entre guillemets des équipes avec moi pour que ça aille vite et que ce soit efficace. Et
Oui,
une fois que
parce
tu as fait
que.
ça, c'est le deuxième volet. Le dernier volet, c'est de l'innovation pure. C'est-à-dire que tu déroules toute une série d'innovations alignées avec la raison d'être qui changent fondamentalement l'expérience client. Et à partir du moment où le client s'est rendu compte que que t'es contraint quelque part et que tu avais bougé, la relation, elle change et c'est super.
Alors, c'est peut-être un peu jeune, mais tu as déjà des premières success stories?
Oui, alors c'est un tout petit peu jeune, mais j'ai notamment accompagné là depuis quelques mois le créateur de la récompense saveur de l'année. C'est rigolo parce que c'est un garçon que j'ai rencontré au moment où je suis arrivé chez Le Sieur. J'arrive dans l'équipe marketing et le chef de produit que je remplaçais me dit on a été élu saveur de l'année sur l'huile d'olive Le Sieur, il était hyper fier.
Ben, il y a de quoi, ouais.
Et donc je lui dis, bah, fantastique, j'assiste à la cérémonie, et bon, c'était vraiment un moment assez magique, et j'ai gardé contact avec ce garçon pendant plusieurs années, 20 ans pour tout dire, et quand il a su que je me lançais, il m'a dit, écoute, moi, saveur de l'année, je continue cette aventure, je pense que au-delà du goût, j'ai envie de prendre d'autres dimensions, celles que toi tu as poussées chez Fleury Michon, notamment la nutrition et l'environnement. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai besoin que tu m'aides à structurer cette nouvelle offre. Et j'ai travaillé avec lui et on a effectivement intégré un volet nutritionnel dans Saveur de l'année avec le Nutri-Score, qui va devenir partie prenante de la note. C'est-à-dire que...
D'accord.
Et puis, sur les sujets environnementaux, on a commencé par un sujet qui est extraordinairement difficile et sur lesquels les entreprises ont commencé à bosser, qui est l'emballage. Et on a fait un partenariat avec Citeo, qui, tu sais, qui est l'organisme qui s'occupe de toute la partie collecte et recyclage des emballages, pour
D'accord.
pouvoir évaluer la recyclabilité de l'emballage, sa capacité à passer dans des boucles circulaires. Et donc, Saveur de l'année intègre maintenant le goût, bien sûr, ça reste son ADN. La nutrition et cette dimension environnement à travers l'emballage, et on est en train de travailler sur d'autres leviers pour 2021. Et donc là, ça va, comment dirais-je, on est en train de le révéler en ce moment, c'est pour ça que j'en parle. Et il a beaucoup, beaucoup de candidatures. qui arrive, ce qui est vraiment un signe, voilà, qu'on est juste, qu'on est dans l'air du temps.
Oui.
C'était aussi une façon, tu vois, vachement importante, moi, je trouve, de dire à un moment donné, c'est une façon de récompenser les efforts des équipes d'avoir ce logo, ce label. La façon dont il me l'avait raconté, j'ai adoré, c'est disait dans les dans le théâtre, par exemple, tu as les Molières qui sont une espèce de
Oui.
récompense annuelle où on va récompenser les meilleures pièces. Il y a les Césars, etc. Et ben, dans l'alimentaire, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et lui, il voulait créer un moment où on célèbre quelque part la prise de risque, le saut d'obstacle, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, les boîtes qui sont les plus en avance de phase. Et donc, on va travailler, enfin, on a travaillé là-dessus. Et en janvier, il y aura une cérémonie pour célébrer tout ça.
Alors, tu n'es pas obligé de me répondre, mais sur un business comme ça, justement, c'est quoi l'équation économique? Comment, enfin, comment il vit?
En fait, c'est une double équation. La première, c'est que il faut candidater pour être élu serveur de l'année. Donc, tu déposes un dossier de candidature et tu dois
D'accord.
financer
L'étude de ton dossier.
l'étude de ton dossier avec notamment les tests organoleptiques qui sont faits dans des laboratoires sensoriels indépendants, enfin des laboratoires sensoriels plutôt, pour valider que ton produit, à l'aveugle, sans aucun marketing pour le coup, il a au minimum une note de 12 sur 20 notée par les consommateurs.
D'accord,
Donc ça,
ok.
c'est la première partie du modèle économique. Il a une marge sur cette évaluation. Et puis après, si tu es noté sur le Nutri-Score et sur l'emballage notamment, tu obtiens le droit d'utiliser le
Le
saveur de
label.
l'année. Et là, c'est une licence quelque part de marque. Donc, tu as des fees
Ouais, d'accord,
annuelles
ok.
pour l'utiliser. C'est comme ça que le business model est construit.
C'est quoi Alors déjà, il y a un challenge parce que t'es passé d'une histoire et d'un environnement où tu avais des équipes en reporting direct, tu étais dans des structures conséquentes avec de la ressource aussi. Et puis tu te lances quelque part dans l'entrepreneuriat. Merde, il y a quelque chose qui est tombé.
C'est mon alliance.
Oh merde! Ah, c'est un mauvais
Je,
signe.
ça, non, mais ça m'arrive assez souvent. Je joue avec souvent et elle est toujours là 20 ans après, donc tout va bien.
Bon. Donc, tu te lances aujourd'hui et alors comment c'est dans comment tu vis ça? Parce que aujourd'hui, si tu te retournes, il y a plus personne derrière toi. Déjà, comment tu le vis? Et puis, c'est quoi ton ambition pour transformation positive?
C'est un très très bon point. C'était un des trucs qui m'a fait peur au moment de me lancer. Je voulais pas me retrouver tout seul parce que j'aime pas travailler tout seul. Donc, j'ai pallié ça d'abord en me disant moi je vais accompagner mes clients comme si j'étais avec eux. Donc, tous les clients avec lesquels je travaille, je considère que je suis dans l'équipe ou que je suis chef d'équipe à leur côté. Et donc je suis
D'accord.
tout le temps, je suis tout le temps. C'est comme si j'étais avec mon équipe en fait. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui me restitue, c'est hyper génial, c'est qu'ils me disent, on a l'impression avec toi que c'est même si t'es pas à l'intérieur, si t'es pas collaborateur de l'entreprise, bah, c'est comme si tu y étais, voire davantage, parce que tu t'engages à 250%. Donc ça, c'est une première façon de faire, et ça, pour moi, c'est important, parce que c'est aussi la garantie du résultat final. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé là, comme ça a décollé très 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 bien, de m'associer. Donc, je vais faire grandir la structure. Je vais m'associer avec d'autres consultants, des gens voilà, vraiment extra,
Bien.
et on sera du coup, tu vois, encore plus fort pour proposer une différence ensemble aux clients. Et puis la troisième façon de l'adresser, c'est grâce à l'ISC une nouvelle fois. Mais je travaille depuis quelques mois là. Au sein de la direction marketing et communication de l'ISC, avec l'équipe marketing et communication. Et c'est un vrai bonheur d'être avec ces gens, hein, de retrouver cet esprit d'équipe aussi en direct, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais. Alors, puis c'est un avantage aussi. Ta position, entre guillemets, quand même un petit peu externe, elle a un avantage, c'est que tu peux mettre les pieds dans le plat.
Oui. Alors moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé pour ça de avant, parce que je le faisais déjà dans les boîtes dans lesquelles j'étais. Mais effectivement, c'est parfois, t'as tout à fait raison. C'est plus audible ou plus facile pour une structure d'entendre un point critique ou un levier d'amélioration par quelqu'un qui vient de l'extérieur que par quelqu'un qui vient de l'intérieur. Parce que il y a toujours une histoire entre les gens. Il y a toujours des amitiés ou des inimitiés qui se sont créées dans la boîte. Et il y a des gens qui deviennent plus audibles au bout d'un moment parce que politiquement c'est pas le moment, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur à un moment donné qui arrive et qui pose un sujet, ben, ça oblige à se re-questionner collectivement. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie force.
Alors, puisque j'ai un pro du marketing sous la main, je vais en profiter pour poser la question. Parce que je vois de plus en plus, et on en fait un petit peu aussi, mais de stratégie marketing qui tourne autour de la notion d'influenceur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des bonnes logiques? C'est quoi là aussi, ce à quoi il faut faire attention? Enfin voilà, ton avis là-dessus, c'est quoi?
Je pense que c'est des logiques ultra intéressantes si, comme pour beaucoup de choses, c'est fait en sincérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu crois beaucoup plus ton collègue, ta communauté sur les réseaux sociaux que une marque qui te raconte une histoire, que un politique qui te raconte son ambition. Donc cette notion de peer-to-peer, elle est hyper importante dans la société aujourd'hui. Et donc les influenceurs, ils ont pris cette espèce de terrain où finalement ils vont construire une communauté sur des valeurs et ils vont essayer de la faire grandir autour de ces valeurs. Donc quand une marque arrive à l'intersection de ça, elle peut faire des étincelles incroyables. Elle peut complètement se planter aussi si elle est dans une logique de contrepartie média où elle respecte pas entre guillemets la ligne éditoriale ou le comment dirais-je, oui, le territoire de l'influenceur. Mais c'est moi j'ai emmené des influenceurs en Alaska. Ils me disent 10 ans après que c'est une des meilleures expériences qu'ils aient jamais vécues avec une marque. Parce que on n'avait rien à leur vendre, entre guillemets, on leur a fait vivre une expérience, et sur la base de cette expérience, on leur a demandé de la raconter sans aucun filtre, avec leurs mots, leur façon de douter aussi. On ne voulait pas
T'as
de...
pas essayé de les dévoyer et de leur faire dire
Exactement.
ce que tu avais envie qu'ils disent.
Donc si tu fais ça, c'est un levier extraordinaire, et c'est intéressant aussi parce que c'est un levier pour se challenger soi-même. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit, tu es aussi dans l'obligation de t'ouvrir aux critiques ou aux pistes d'amélioration. Et un peu comme on disait tout à l'heure, un conseil extérieur vient te secouer, bah un influenceur qui est dans sa verticalité, dans son rôle, peut venir aussi t'apporter des éléments de construction de ton offre hyper puissants.
Ben écoute, c'est hyper clair. David, est-ce que. Parce on me dit toujours que je fais trop long, je fais trop long, je sais, mais on s'en fout. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais aimé répondre et que je ne t'ai pas posée? Un truc, ou peut-être une synthèse, un message fort. Alors là, déjà, c'est puissant comme approche et comme transformation, même si c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans la durée, effectivement. Est-ce qu'il y a, y a un truc que tu veux passer, que tu voulais dire absolument?
Moi, oui, j'aimerais passer un message. J'espère qu'il est passé là un peu, mais d'optimisme. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'alertes aujourd'hui sur le fait que dans 5 ans, dans 10 ans, que le monde va mal, etc. Je pense que l'avenir vraiment, il est entre nos mains. On a encore la chance. On est une génération qui a la chance de pouvoir, je pense peut-être pour la dernière fois, changer le cours des choses. Et c'est une responsabilité extraordinaire. Ça peut faire peur, mais c'est un vrai bonheur de le faire, d'emmener des gens avec soi pour le faire et d'obtenir des succès parce que ça enthousiasme, au-delà de soi, ça enthousiasme les publics et les consommateurs. Donc mon message d'optimisme, c'est allez-y, foncez, transformez-vous et puis faites-vous aider pour le faire.
Et on a encore l'opportunité de le faire, donc profitons-en.
Absolument.
Alors, passage obligé, Et je t'ai posé la question juste avant qu'on commence l'enregistrement, c'est est-ce que tu as lu le pré-briefing? Et oui, tu avais lu le pré-briefing, ce qui est quand même une grande satisfaction pour moi. Merci David.
Plaisir.
On voit l'homme de marketing, c'est-à-dire que quand il voit le mot briefing, il lit quand même.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai, c'est un bon réflexe.
Alors, David, dis-moi, quel est ton mot préféré?
Écoute, j'en ai choisi deux parce que je suis un peu impertinent. Transformation, bien sûr, ça a été un peu le fil
directeur
de notre
transformation
discussion.
Positive, c'est ça?
Non, je voulais pas être. Non, un autre mot que j'adore, c'est celui de. C'est le mot régénération. Et je pense que c'est vraiment un mot très, très actuel. On a passé 60, 70 ans, comme tu disais tout à l'heure, à abîmer les écosystèmes. Je pense qu'on est à un moment où il faut les régénérer. Et on doit réutiliser toute l'intelligence des hommes qu'on a acquis depuis plus de 2000 ans. Au service de cette idée de régénérer la vie, parce que si la vie n'est pas préservée autour de nous, nous, on n'a aucune raison de continuer à vivre. Donc ce mot me fait kiffer, quoi, régénération. Et je pense que le temps est venu de lancer une nouvelle génération de marques régénératrices en France, et j'aimerais bien contribuer à ça.
Ouais, et puis moi je crois beaucoup aux notions d'économie circulaire, blue economy, enfin voilà, on réfléchit pas mal avec... avec mes équipes là-dessus, je pense qu'il y a, il y a déjà des choses qui se font, mais on peut pousser le curseur encore un peu plus loin.
Absolument.
Alors, le mot que tu détestes?
Ça, c'est facile, c'est l'immobilisme. Ouais. Le fait de se dire finalement
Tu t'es battu contre ça toute ta vie.
Oui, et puis derrière, il y a la peur, derrière, il y a... Voilà, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas peur, j'ai peut-être même plus peur que les autres, mais c'est... Ça devient un moteur parce que ça m'oblige à regarder plein de scénarios et à choisir le bon.
Le son, le bruit que tu aimes?
Là, j'ai fermé les yeux quand j'ai lu cette phrase et je me suis retrouvé au bord de la mer avec des vagues qui s'échouent sur le sable, le soleil couchant, les odeurs d'embrun. J'ai passé un bon moment. Merci pour la question.
Le son ou le bruit que tu détestes?
C'est un bruit que j'ai beaucoup entendu parce que j'ai un immeuble qui se construit juste à côté de là où j'habite. C'est l'assise circulaire, tu sais, sur le métal. Là.
Ah, le truc qui fait grincer les dents.
C'est celui-là, oui. Celui-là, j'aime pas.
D'accord. Le juron, gros mot ou blasphème favori?
En fait, j'utilise plein d'expressions un peu débiles. Qui font souvent rire les gens auxquels je m'adresse, mais c'est ça te caractérise. Donc j'utilise par exemple réussir à 250%.
Ouais.
J'utilise le fait de pouvoir vivre un kiff intersidéral.
Ouais.
Et j'utilise le brief de la mort qui tue.
Ouais. C'est très marqué générationnellement parlant, quand même. Je pense.
On commence
à être vieux. Hashtag je suis vieux.
Je dois le reconnaître. Je ne mets pas mes lunettes.
Tu sais pourquoi je dis ça? C'est que moi, ça me parle. C'est que c'est des expressions qui me parlent ou que je pourrais utiliser. Donc voilà, c'est juste pour ça. La citation, à chaque fois, je rip là-dessus. La citation que tu aurais aimé prononcer?
C'est une citation de George Bernard Shaw qui dit « Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, et il y a ceux qui le voient tel qu'il pourrait être et qui se disent pourquoi pas. »
Ouais, pourquoi pas. Mais ça, c'est une grande philosophie. Pourquoi pas et pourquoi pas.
Exactement.
Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
J'aimerais beaucoup qu'il me dise merci d'avoir contribué à rendre le monde meilleur pour mes enfants.
Mmh. Joli. Et puis, complètement aligné avec tout ce qu'on s'est dit, jusque-là. Si on veut, David, parler avec toi, parler de transition, parler de marketing, c'est quoi le meilleur moyen pour te joindre?
Je suis joignable facilement sur les réseaux sociaux, Twitter Degarbus, sur
D'accord.
LinkedIn et sinon à l'ISC avec grand plaisir.
Ok. Bah écoute, c'est noté. Il me reste à te remercier beaucoup de ton temps. C'était éclairant. Et tu vois, toutes les histoires que tu as pu raconter, enfin, les histoires, c'est tes expériences, pardon, sont parlantes parce que. Comme disait un ministre, pour arriver à faire bouger le mammouth ou à dégraisser le mammouth, c'est parfois difficile. Mais ce qui est rassurant en t'écoutant, c'est que même dans des environnements ou dans des sociétés qu'on pourrait présager comme étant finalement assez traditionnelles ou traditionnalistes, eh ben, peut-être là, et peut-être plus encore là d'ailleurs, on arrive à faire bouger les choses, on arrive à pousser les limites, à changer les frontières. Et puis en plus de ça, alors de toi à moi, tu as cité du Sinek, en veux-tu, en voilà, et moi je suis juste un fan absolu. C'est un mec, je le mettrai en description du podcast, voilà, son All Great Leaders Inspire Action. C'est une conférence TED qui, moi, a changé ma vie, définitivement.
Ouais, c'est une
Donc,
très belle conférence, je suis d'accord.
et je la recommande à tout le monde à chaque fois que j'ai l'occasion. Donc voilà, là, tu avais trouvé de l'écho en moi. Donc un grand merci, David. Et puis, allons-y en avant pour un monde meilleur.
Merci beaucoup, Pierre. C'était un super moment passé en ta compagnie et avec plaisir pour prolonger la conversation avec tous ceux qui le souhaitent à l'occasion.
Merci beaucoup, David. Bye bye.
Bye.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.